Walter Scott, Quentin Durward. Chapitre 15. Le billet. Le repas terminé, le chapelain, qui semblait se plaire dans la société de Quentin Durward, ou qui peut-être désirait tirer de lui de nouveaux détails sur son aventure, l'emmena dans une pièce retirée dont les fenêtres donnaient sur le jardin. Ayant remarqué que son compagnon regardait de ce côté-là avec beaucoup d'intérêt, il lui proposa de descendre pour voir les arbrisseaux étrangers dont l'évêque avait enrichi ses parterres. Quentin accepta avec empressement. Quand ils furent au jardin, le chapelain avait l'air d'un philosophe terre à terre, uniquement occupé des choses terrestres. Les regards de Quentin, au contraire, s'ils n'interrogeaient pas le ciel comme ceux d'un astrologue, se maintenaient au moins à la hauteur des fenêtres, balcon et tourelle, en quête d'une certaine étoile. Aussi écoutait-il avec peu d'attention, si même il écoutait, l'énumération des plantes, herbes et arbrisseaux, sur lesquels son guide cherchait à appeler son attention. Et pourtant, comme il lui fallait par bienséance montrer quelque semblant d'intérêt, il trouvait son rôle si ingrat et si difficile qu'il envoyait cordialement à tous les diables, et le naturaliste, et le règne végétal tout entier. Un tintement de cloche le tira de peine. Ce tintement de cloche appelait le chapelain à l'accomplissement de quelques devoirs de sa charge. Le révérend personnage se confondit en excuses parfaitement inutiles et termina son petit discours en assurant son nouvel ami qu'il pouvait se promener dans le jardin jusqu'au souper sans avoir à craindre d'être dérangé dans sa promenade. Inutile de dire que dans l'inspection qu'il passa alors, tout à loisir, des fenêtres et autres ouvertures, celles-là attirèrent particulièrement son attention qui avoisinait la petite porte. Cette petite porte par laquelle il avait vu Marton introduire Herdin chez les dames de Croix, du moins à ce qu'il prétendait. Mais jusqu'au crépuscule, rien ne bougea, rien ne se montra, qui fût de nature à démentir ou à confirmer les paroles du bohémien. Et Quentin commença à se dire, sans trop savoir pourquoi, qu'une promenade si prolongée dans le jardin pourrait déplaire à quelqu'un, ou faire naître les soupçons de quelqu'un. Jusqu'au moment où il venait de se résoudre à partir et où il faisait un dernier tour sous les fenêtres qui exerçaient sur lui une si grande attention, il entendit au-dessus de lui un léger bruit, comme une toux étouffée, destinée à attirer son attention sans attirer celle des indiscrets. Comme il levait les yeux, plein de surprise et de joie, une fenêtre s'entr'ouvrit. Une main de femme laissa échapper un billet qui tomba dans une touffe de romarin au pied du mur. Les précautions que l'on avait prises en laissant tomber ce billet prescrivaient une prudence égale à celui qui devrait le lire. Le jardin, entouré de deux côtés par les bâtiments du palais, était dominé par les fenêtres de nombreux appartements. Mais il y avait à portée une grotte de rocailles que le chapelain avait montrée à Durward avec beaucoup de complaisance. C'est là que Quentin ouvrit le précieux billet, bénissant dans son cœur les bons moines d'Aberbrothick, dont les enseignements l'avaient mis en état d'en déchiffrer le contenu. La première ligne contenait cette injonction. Lisez ceci en secret. Voici le corps de la lettre. Ce que vos yeux ont dit avec trop de hardiesse, les miens l'ont compris peut-être avec trop de précipitation. Mais la persécution donne de l'audace à la victime. Peut-être valait-il mieux pour moi me reposer sur la gratitude d'un seul que d'être en butte à la poursuite de plusieurs. Si vous osez quelque chose pour une personne qui hasarde tant, vous n'avez qu'à passer dans ce jardin à l'aube, ayant à votre bonnet une plume bleue et blanche. Mais n'attendez pas d'autres communications. Adieu, soyez fidèle, prompt et résolu, et ne doutez pas de votre fortune. Dans cette lettre, il y avait un anneau avec un diamant, sur lequel était gravé en losange les armes anciennes de la maison de Croix. Durward éprouva tout d'abord une joie sans mélange. Puis, malgré lui, à la réflexion, il trouva, en se le reprochant, que la modestie de la comtesse Isabelle avait dû beaucoup souffrir pendant qu'elle écrivait ce billet et se décidait à le lui faire parvenir. Mais il imposa silence à ses scrupules en se disant que les dames de haut parage ont des immunités que n'ont pas les simples mortels, et que les personnes persécutées échappent comme elles peuvent à la persécution. Le lendemain, dès l'aurore, ou plutôt une heure avant l'aurore, il était dans le jardin du château, avec une plume bleue et blanche à son bonnet. Pendant 2 bonnes heures, personne ne donna signe de vie. À la fin, il entendit quelques accords de lutte. Une fenêtre s'ouvrit juste au-dessus de la petite poterne et Isabelle apparut. Elle le salua avec un mélange de bonté et de timidité, devint très rouge quand elle vit la profonde révérence très significative par laquelle il répondit à sa politesse, referma la fenêtre et disparut. Sa rougeur prouvait à l'évidence que le billet était bien de sa main. Que s'en suivrait-il? Dans tous les cas, aucun danger immédiat ne menaçait la comtesse. Elle était dans un château bien fortifié, sous la protection d'un prince assez puissant pour la faire respecter. Pour le moment, Quentin n'avait rien à faire qu'à attendre les ordres de la comtesse. C'était la quatrième nuit après son arrivée à Schoenwald. Quentin devait dès le lendemain renvoyer le dernier des valets qui l'avait accompagné dans son expédition. Cet homme serait chargé de 2 lettres, l'une pour le balafré, l'autre pour Lord de Crawford, dans lesquelles il leur faisait savoir qu'il renonçait au service du roi de France, et pourquoi. Il s'était mis au lit, l'espoir rempli des plus riantes chimères. Aussi les rêves de son premier sommeil furent-ils délicieux. Mais peu à peu, ils se transformèrent et prirent la forme d'une tempête effroyable dont le fracas le réveilla. Les circonstances de son rêve avaient disparu, mais le bruit continuait de résonner à ses oreilles. Il se dressa sur son lit et écouta, puis il se précipita vers la fenêtre. Comme cette fenêtre donnait sur le jardin, et que de ce côté-là tout était tranquille, il ne put voir quelle était la cause du bruit qui l'avait réveillé. Mais il comprit à la nature des sons que le château était attaqué et subissait un assaut. Pendant qu'il s'habillait à la hâte dans l'obscurité, quelqu'un frappa à sa porte. Comme il ne répondait pas, la porte fut enfoncée, et il entendit alors la voix de Herdin. Écoutez-moi, si vous êtes en état d'entendre une parole raisonnable. Les Liégeois sont soulevés. Ils ont Guillaume de la Marck à leur tête. La résistance est impossible. Si vous voulez sauver la comtesse, suivez-moi, au nom de celle qui vous a envoyé un diamant avec 3 léopards gravés dessus. Conduis-moi, dit vivement Quentin. Il n'y a aucun danger, reprit le bohémien, si vous pouvez prendre sur vous de ne pas vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Qu'est-ce que cela vous fait, après tout, que l'évêque égorge son troupeau ou le troupeau son évêque? Ah! Suivez-moi, mais avec précaution et sans impatience. Contenez votre courage, et fiez-vous à ma prudence, et ma dette sera payée, et la comtesse sera votre femme. Suivez-moi. Je te suis, dit Quentin, en tirant son épée. Mais au premier signe de trahison, je fais voler ta tête à 3 pas de ton corps. Suivi de Quentin, le bohémien descendit l'escalier, et prit plusieurs passages secrets, qui les amenèrent tous les deux au jardin. Il y avait peu de lumière de ce côté, et l'on n'y voyait aucun mouvement. Mais aussitôt que Quentin fut en plein air, il entendit le bruit effroyable de l'assaut. Les assaillants criaient « Liège! Liège! Sanglier! Sanglier !» Les assiégés répondaient « Notre-Dame pour le prince évêque !» Ce cri avait moins de force et d'éclat que les 2 autres, car les gens de l'évêque étaient de beaucoup inférieurs en nombre. Quoique Duroard fût soldat dans l'âme, l'intérêt de la bataille était nul pour lui, au prix de la destinée d'Isabelle de Croix. Si l'on ne se hâtait de la sauver, elle avait tout à craindre du soudard cruel et dissolu qui forçait en ce moment la porte de son asile. À la porte qui conduisait aux appartements des dames de Croix, Herdin, avec précaution, fit entendre un signal. La porte s'ouvrit et 2 femmes sortirent, la tête enveloppée de voiles de soie noire. Quentin offrit le bras à l'une d'elles. Elle s'y cramponna toute tremblante et s'y appuya de tout son poids. Le bohémien, conduisant l'autre, marcha droit à la poterne qui donnait sur le fossé. La barque était là, toute prête. Pendant qu'il traversait le fossé, les cris des assaillants redoublèrent de violence, et l'on put comprendre que le château était pris. Quentin ne put s'empêcher de jurer tout haut et de dire « Si je ne devais tout mon sang à l'accomplissement de mon présent devoir, j'irais au rempart, prendre loyalement le parti du bon évêque et faire taire quelques-uns de ces coquins. » La dame, dont le bras était passé sous le sien, le lui pressa légèrement, comme pour lui faire comprendre qu'en sa qualité de chevalier, il avait là, tout près de lui, une cause plus belle à défendre que celle du château de Schoenwald. « Vite, vite !» s'écria le bohémien. « Des chevaux nous attendent sous ces saules là-bas. » « Mais je ne vois que deux chevaux, » dit Quentin. « C'est tout ce que j'ai pu me procurer, sans exciter de soupçons. Et c'est assez de deux, » répondit le bohémien. « Vous allez tous les deux partir pour Tongres, pendant que le chemin est libre. Marton restera avec les femmes de notre bande qui la connaissent bien. Sachez-le, elle est de notre race, et n'a séjourné chez vous que pour servir nos desseins à l'occasion. « Marton ? » s'écria la comtesse, en regardant la femme voilée avec une exclamation de surprise. « Quoi ? Ce n'est donc pas ma parente ?»« Ce n'est que Marton, » répondit Herdin. « Pardonnez-moi cette petite supercherie. Je n'ai pas osé enlever les deux dames de croix au sanglier des Ardennes. « Misérable ! » s'écria Quentin. « Mais il n'est pas... Il ne peut être trop tard. Je retourne au secours de dame Ameline. « Ameline ? » dit tout bas la dame d'une voix troublée. « Elle est à votre bras, et vous remercie de l'avoir sauvée. »« Et quoi ? Qu'est-ce à dire ? » s'écria Quentin, en se débarrassant de son bras, avec un peu moins de courtoisie qu'il n'en eût témoigné en toute autre circonstance à une dame de son rang. « C'est donc la comtesse Isabelle qu'on a laissée là-bas ? Adieu, adieu !» Comme il allait s'élancer vers le château, Herdin l'arrêta. « Non, dit-il, non, écoutez-moi, vous courez à la mort. Pourquoi diable aussi portiez-vous les couleurs de la vieille ? Mais, après tout, elle est aussi riche que l'autre. Elle a des joyaux, de l'or, des droits aussi sur le comté. » Tout en parlant ainsi, le bohémien faisait tous ses efforts pour retenir Quentin. Ce dernier, à la fin, tira son poignard pour en finir. « Non, pas de cela, » dit Herdin en lâchant prise. « Allez, et que le diable vous accompagne, s'il y a un diable. » Aussitôt, l'Écossais se précipita vers le château.